fidèles au programme de VOA Afrique. À très vite.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 10 mai 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, RDC, nouveau massacre de civils dans un camp des déplacés en Ituri. Au Burkina Faso, l'armée annonce avoir tué au moins 50 terroristes. Les combats font toujours rage dans l'est de l'Ukraine, mais une sorte de normalisation se met en place à Kiev avec le retour des habitants dans la capitale. Le Monde paye un lourd tribut à la cybercriminalité. Ce fléau a coûté plus de 6 000 milliards de dollars en 2021. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Au moins 14 civils tués hier lundi dans un camp de déplacés en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, par de présumés miliciens du groupe armé CODECO ou Coopérative pour le développement du Congo. Nani Talani.
Jude Tsuba, président de la société civile du territoire de Djougou, précise que les miliciens CODECO sont venus vers 21h locales et ont attaqué simultanément le site des déplacés à Louda et le camp des militaires vers Fataki, distant de 9 km. Selon M. Tsuba, les deux attaques ont fait 15 morts, dont un militaire, mais la majorité des victimes sont des enfants. Au moins 9 corps d'enfants ont été trouvés. Ce bilan est encore provisoire, selon M. Tsuba. Le camp de déplacés de Louda abrite majoritairement les déplacés de la communauté Emma, près de Fataki, dans le territoire de Djougou, en Ituri. Les miliciens CODECO URDPC sont soupçonnés, affirme le baromètre sécuritaire de Kivu. La milice CODECO prétend défendre les membres de la communauté Lendu contre la communauté Emma. La dernière attaque d'envergure attribuée à ce groupe armé dans le territoire de Djougou remonte à dimanche, quand les miliciens CODECO ont tué au moins 35 personnes dans l'attaque d'une mine d'or artisanale.
Au Congo-Brazzaville, un collectif d'organisations de défense des droits de l'homme a dénoncé aujourd'hui un accord anticonstitutionnel de concession de 12 000 hectares de terres cultivables au Rwanda par le Congo pour 25 ans dans une lettre adressée au président Denis Sassou Nguesso. Ce collectif a lu devant la presse cette lettre ouverte au chef de l'État congolais dans laquelle il lui demande la rétraction pure et simple de cet accord qui est humiliant et déshonorant pour la République du Congo. L'armée burkinabé a annoncé ce mardi avoir neutralisé au moins 50 terroristes hier lors d'une riposte à une embuscade dans le nord-ouest et d'une opération dans le sud-ouest. Plus de détails avec Claire Morin-Gibou.
Le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention de Barani a vigoureusement réagi à une embuscade tendue par plusieurs dizaines d'individus à quelques kilomètres de la localité de Barakoui, a indiqué l'état-major des armées dans un communiqué précisant que l'unité avait neutralisé au moins 40 terroristes. Hier, toujours selon l'état-major burkinabé, une action offensive à la sortie de Djigwe dans la province du Pony dans le sud-ouest a été menée par une unité commando de Gawa. Cette action, conduite avec des supplétifs de l'armée, a permis de neutraliser 10 terroristes et de récupérer leur armement. Cette région du sud-ouest est frontalière à la Côte d'Ivoire et au Ghana. Si le nord et l'est du Burkina Faso concentrent la majorité des attaques djihadistes, certaines régions de l'ouest sont également touchées.
Le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné aujourd'hui l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré et 9 autres accusés à payer plus de 800 millions de francs CFA de dommages et intérêts aux ayants droit de l'ex-chef de l'État Thomas Sankara et de ses compagnons assassinés en 1987. Cette somme devra être payée solidairement par Blaise Compaoré, l'ancien commandant de sa garde Hyacinthe Kafando et l'ex-chef de l'armée en 1987 Gilbert Diendéré, tous condamnés à la perpétuité début avril pour leur implication dans l'assassinat ainsi que 7 autres accusés condamnés à eux à des peines de 3 à 20 ans de prison. Le président sénégalais Macky Sall a lancé aujourd'hui à Dakar un programme d'allocation financière pour plus d'un million de ménages démunis afin de les aider à faire face aux effets de la guerre en Ukraine et de l'épidémie de Covid-19. Depuis le début de la guerre en Ukraine, fin février, les coûts du pétrole se sont envolés sur les marchés mondiaux, alimentant une forte hausse des prix des carburants et des produits alimentaires dans de très nombreux pays, dont le Sénégal. Un total record de 39 candidatures a été enregistré pour l'élection présidentielle prévue dimanche en Somalie, a annoncé aujourd'hui le comité parlementaire en charge d'organiser ce scrutin, maintes fois reporté et attendu depuis plus d'un an. Le nouveau chef de l'État sera désigné par les députés et sénateurs réunis à l'aéroport de la capitale, Mogadiscio, lieu le plus sécurisé de ce pays de la Corne de l'Afrique, qui fait face depuis 15 ans à une insurrection des islamistes radicaux Shebab.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a assuré aujourd'hui que l'inflation était sa plus grande priorité nationale au moment où la hausse des prix pèse sur les ménages américains et sur sa popularité. Il a toutefois estimé que certaines des racines de l'inflation étaient hors de son contrôle, citant la pandémie de COVID-19 et les effets de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. En Ukraine, les autorités affirment que des combats font toujours rage dans l'est et le sud du pays, tandis que près de 2/3 des habitants de Kiev sont revenus dans la capitale. Le point avec Nathalie Bage.
À Mariupol, plus d'un millier de militaires ukrainiens se trouvent toujours dans la Syrie Azovstal, assiégée par les troupes russes, selon la vice-première ministre ukrainienne Irina Verechuk, affirmant que des blessés nécessitent une évacuation. Les civils ont tous été évacués la semaine passée avec l'aide de l'ONU. Les Russes continuent de préparer des opérations offensives dans les régions de Liman et Severodonetsk, dans le Donbass, a indiqué l'état-major ukrainien. Près des 2/3 des 3,5 millions d'habitants de Kiev sont revenus dans la capitale, a indiqué le maire Vitali Klitschko, incitant les résidents à revenir malgré le couvre-feu et les barrages routiers. La chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, et son homologue néerlandais, Wopke Hoekstra, ont visité Irpin et Boutcha, où l'Ukraine accuse les Russes d'avoir tué des civils. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, effectue ce mardi une visite en Algérie pour renforcer le partenariat avec cet allié de Moscou et exportateur gazier de plus en plus sollicité par l'Europe, qui cherche à réduire sa dépendance du gaz russe.
Le Congrès américain va débloquer, à la demande du président Joe Biden, une nouvelle enveloppe de près de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine avec un possible premier vote ce mardi même. Ces fonds doivent permettre à l'Ukraine de s'équiper en véhicules blindés, renforcer sa défense anti-aérienne et combattre les cyberattaques à l'heure où les combats font toujours rage dans l'est et le sud du pays. Plusieurs milliards de dollars sont également prévus pour assurer la continuité des institutions démocratiques ukrainiennes ainsi qu'un large volet humanitaire. La cybercriminalité se fait plus menaçante et a coûté plus de 6 000 milliards de dollars au monde l'année dernière, des chiffres alarmants révélés ce mardi par le patron du géant italien de l'aéronautique et de la défense, Leonardo. Le point tout de suite avec Abdourahman Dia.
Selon Alessandro Profumo, les nouvelles menaces dans le domaine de la cybersécurité au cours des deux dernières années ont été des dommages collatéraux de l'épidémie de COVID-19 et de la numérisation accélérée que celle-ci a entraînée. Il l'a dit en ouvrant à Rome un congrès d'experts Cybertech Europe 2022. Il a ajouté que les cyberattaques ont été de plus en plus nombreuses, sophistiquées et avec un impact croissant. Toutefois, les besoins de spécialistes dans le domaine de la cybersécurité sont très importants et 55% des entreprises européennes peinent à embaucher alors qu'il manque au moins 200 000 experts, selon le patron du géant aéronautique italien. Les problèmes de cybersécurité ont par ailleurs été exacerbés par la guerre en Ukraine. Le Fonds monétaire international a affirmé le mois dernier que les attaques pourraient cibler des institutions financières d'importance systémique. Elle pourrait entraîner une perte de confiance dans le système financier plus large, avec un impact potentiellement négatif sur la stabilité financière mondiale, avait conclu le FMI.
Le Ferdinand Marcos Jr., fils de l'ancien dictateur du même nom, renversé en 1986, est voulu rassembleur. Aujourd'hui, au lendemain de sa victoire écrasante à l'élection présidentielle aux Philippines, qui ravive de vieilles blessures dans l'archipel du sud-est asiatique, les commentateurs politiques doutent que la future présidence de Marcos Junior, qui devrait prêter serment fin juin, favorise l'apaisement, alors que ses opposants lui reprochent de réécrire l'histoire des années de dictature. Et puis le président américain Joe Biden va recevoir vendredi le roi de Jordanie Abdallah II et son fils, le prince Hussein, a annoncé aujourd'hui la Maison Blanche. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Mouamadou Moufa.
Le FMI a accordé mardi un prêt de 456 millions de dollars au Mozambique. Un prêt qui permettra de soutenir la reprise économique et les mesures mises en place pour réduire la dette publique et les faiblesses financières, a estimé l'agence onusienne dans un communiqué. Le FMI y avait suspendu son aide après le scandale dit de la dette cachée. Des prêts secrets d'environ 2 millions d'euros avaient été accordés par des banques étrangères à des entreprises publiques mozambicaines et garanties par l'État. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, effectue ce mardi une visite en Algérie pour renforcer le partenariat entre les deux pays. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, plusieurs pays cherchant à réduire leur dépendance au gaz russe se sont tournés vers l'Algérie, mais Alger, qui fournit environ 11% du gaz consommé en Europe, répète que ses capacités supplémentaires d'exportation sont trop limitées pour se substituer au gaz russe. Le Bitcoin, la principale crypto-monnaie, a vu ses gains s'évaporer en mai et son prix retomber brièvement mardi sous 30 000 $. Une dégringolade qui signifie que la grande majorité des fonds et des personnes détenant des bitcoins achetés l'année dernière subissent actuellement des pertes. Les déboires du secteur des crypto-monnaies sont liés à la prudence accrue des investisseurs inquiétés par la guerre en Ukraine, les confinements en Chine et le resserrement de la politique monétaire des États-Unis.
Place maintenant au sport avec Nani Talani.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. La finale de la Ligue des champions de la CAF aura lieu au Maroc le 30 mai prochain, confirme la Confédération africaine de football. La CAF a reçu des offres du Sénégal et du Maroc et, après le retrait ultérieur de l'offre sénégalaise, le Maroc a obtenu les droits d'organisation, a déclaré le porte-parole ce mardi. La CAF n'a pas encore précisé dans quelle ville se déroulera le rendez-vous de la compétition continentale la plus prestigieuse des clubs africains. Parmi les sites possibles se trouvent Agadir, Casablanca, Marrakech, Rabat et Tanger. Les Bright Stars du Soudan du Sud débutent leur préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 demain mercredi. Pour l'occasion, le coach italien Stefano Cousin a convoqué 32 joueurs, dont plusieurs expatriés, pour un stage d'une semaine à Juba, la capitale. Les Bright Stars iront aussi en stage d'environ 2 semaines au Maroc avant la fin du mois pour y disputer des matchs amicaux. Lors des 2 premières journées des qualifications pour la CAN d'Afrique des Nations 2023, le Soudan du Sud affrontera la Gambie le 4 juin et le Mali le 9 juin. On en sait un peu plus sur les circonstances qui entourent le décès de l'international ailier congolais Jody Lukoki, survenu hier lundi à 29 ans. Selon la presse néerlandaise, le joueur est mort d'un arrêt cardiaque après l'imputation d'une jambe liée aux complications de sa blessure au ligament croisé du genou dont il était victime. Toujours selon les médias hollandais, la blessure de Jody Lukoki aurait été aggravée à la suite d'une violente dispute avec ses cousins qui l'auraient roué de coups, le laissant avec des douleurs à la tête et au genou déjà malade. À l'hôpital, les médecins décident de le garder après avoir noté aussi une infection persistante et un manque d'oxygène dans la jambe malade. Cela a conduit à une amputation, puis a entraîné sa mort précoce. Jody Lukoki, formé à l'Ajax Amsterdam en Hollande, dont il avait également la nationalité, a joué dans plusieurs clubs en Turquie et en Bulgarie notamment. Il totalisait 3 sélections avec la République démocratique du Congo. Pour terminer, en NBA, les Celtics, grâce à Horford et Jason Tatum, se sont imposés à Milwaukee pour égaliser 2-2 dans leur demi-finale de conférence lundi en play-off NBA, où les Warriors ont laborieusement vaincu les Grizzlies pour mener 3-1. Horford avait pourtant en face de lui Giannis Antetokounmpo, dominant durant 3 cartons avant de moins peser dans le money time, mais qui a tout de même fini avec 34 points et 18 rebonds.
Page de sport signée Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Villon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, depuis le 16 avril, 8 travailleurs de la mine de zinc de Perkoa dans le centre-ouest sont coincés à plusieurs centaines de mètres sous terre. L'attente devient trop longue pour les parents des victimes. Ils ne font que prier, garder espoir qu'ils vont retrouver bientôt les siens. Lamine Traoré, le correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, s'est déplacé dans la localité et a pu rencontrer les membres des familles des mineurs. Son reportage.
Ici, nous sommes au commissariat de Réo, à quelques kilomètres de Perkoa, là où les 8 travailleurs sont coincés. Les parents des victimes passent toute la journée ici. L'attente est longue, et même très longue. Cela fait maintenant près d'un mois qu'ils n'ont plus de nouvelles de leurs proches. Sur les visages, la tristesse, la désolation, mais aussi l'espoir. David Bakwala est le frère aîné d'une des victimes.
Jusque là, non, on ne peut pas perdre espoir. Parce que pour moi, on ne peut pas perdre espoir du moment qu'ils sont à pied d'eux pour sauver nos jeunes frères. Et qui nous ont rassurés des chambres de refuge à l'intérieur, s'ils ont pu s'intégrer, et je ne perds pas espoir, je crois toujours.
Je suis vraiment triste.
Aïcha Kinda, épouse d'une des victimes.
Je ne savais pas que ça pouvait arriver jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'a pas eu de nouvelles. On prie vraiment Dieu pour qu'il puisse nous aider à retrouver nos maris. Dans mes prières, souvent, je parle, il y a des paroles que je dis. Ça ne peut pas, c'est pas. Dieu peut transmettre mon message à lui sans que je le sache. Je lui dis que s'il me manque beaucoup, je ne peux pas rester sans lui. Voilà. Je suis une aussi qui est enceinte. Il dit qu'il ne faut pas qu'il va me quitter comme ça.
Il y a quelques jours, ses parents des victimes s'étaient fâchés contre les responsables de la mine. David Bakwala.
On était fâchés contre les responsables de la mine qui souvent ont négligé l'affaire du sauvetage. Donc on était vraiment fâchés et on est venu voir les premières autorités afin qu'ils puissent nous aider à entendre notre voix.
Antoine Bama est le porte-parole des familles auprès des autorités. Il participe à toutes les rencontres de la cellule de crise mise en place par le gouvernement.
Nous avons trouvé que le nombre de jours augmente et plus le nombre de jours augmente, plus l'espoir diminue un peu. Donc nous avons jugé nécessaire donc de nous retrouver ici chaque matin et pour voir donc l'évolution des choses et également apporter notre contribution pour que les recherches puissent aller vite, également mettre la pression sur la mine pour que ça puisse aller rapidement. Et on était vraiment inquiets et chaque jour les membres du gouvernement ils se rendent également au niveau de la mine. Ils descendent également en profondeur pour voir comment évolue le travail. Donc ça nous rassure un tout petit peu, ça nous rassure.
C'est une course contre la montre qui est lancée pour retrouver les 8 travailleurs, dont 6 Burkinabés, un Zambien et un Tanzanien. Les autorités rassurent que les équipes de sauvetage ont presque atteint la deuxième chambre de refuge qui suscite tous les espoirs ici. Lamine Traoré, Réo, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique. Au Togo, le gouvernement a procédé à une nouvelle hausse des prix des produits pétroliers dans les stations-service à partir de ce jour. L'essence sans plomb passe de 595 francs CFA à 625 francs CFA. Le gasoil subit une hausse de 55 francs CFA et se vend désormais à 660 francs CFA. La dernière hausse des prix des produits pétroliers est intervenu le 29 mars dernier, le gouvernement invoquait le prix du baril du pétrole sur le marché international pour justifier cette hausse. De Lomé, la correspondance de Kossi Wusu.
En l'espace de 40 jours, le gouvernement a procédé à deux hausses consécutives des prix des produits pétroliers. Une situation qui laisse sans voix les Togolais. Komi, un taximan dans la capitale togolaise, ne sait plus à quel sens se vouer.
Il y a un mois, ils ont augmenté. On a crié qu'ils vont nous tuer. Ça n'a pas suffi. Et ils viennent d'augmenter encore. C'est qu'ils veulent nous enterrer. Vraiment, on ne comprend plus rien. Trop, c'est trop. On ne peut plus tenir.
Sur le grand contournement de Lomé, à la périphérie de la ville, beaucoup de motocyclistes et de conducteurs de voitures s'arrêtent au bord de la route pour s'approvisionner avec de l'essence frelatée. Francis, un usager de la route, se dit obligé de procéder ainsi.
C'est l'essence prélatée qui va nous sauver maintenant. Tu prends 2000 francs pour payer 3 litres d'essence. Où peux-tu aller avec ça? Ici au moins, il reste sur l'ancien prix. Comme ça, tu gagnes 30 francs sur le litre. Ça peut faire quelque chose.
Dans un communiqué, le gouvernement indique que, nonobstant cet ajustement, le montant global de la subvention pour le mois de mai 2022 est estimé à 12 milliards de francs CFA, maintenant ainsi le soutien au pouvoir d'achat. Jean-Baptiste, de l'Association des usagers des services publics du Togo, n'est pas d'accord avec cette pratique des autorités qui souffrent de transparence.
Je crois que le gouvernement est dans un mauvais rôle en donnant toujours l'information aux populations comme quoi ils subventionnent les produits pétroliers. Depuis longtemps, il y a beaucoup de structures de la société civile qui ont exigé du gouvernement la transparence, c'est-à-dire la vérité dans la structuration des prix des produits pétroliers. Mais depuis, cela n'a pas été un acquis. Donc, beaucoup d'organisations de la société civile se plaignent toujours qu'il n'y a pas de transparence dans la fixation de ces prix. Donc quand le gouvernement dit aujourd'hui que les produits sont toujours subventionnés, on n'a pas la preuve. Donc on ne peut pas croire à un gouvernement qui ne joue pas le jeu de la transparence.
Abondant dans le même sens, le député de l'opposition Diri Tama relève sur sa page Facebook que le gouvernement, en disant qu'il met environ 12 milliards pour amortir les prix actuels, on est en droit de se demander combien coûterait le carburant sans la subvention. 12 milliards le mois, ça fait 144 milliards par an, soit environ 9% du budget national. La subvention des produits pétroliers serait la première dépense de l'État. À ce coût, il faudrait se résoudre à se déplacer à vélo si on veut développer le pays, ironise-t-il. Kossi Wusu, Lomé, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Tokodé et sur Radio Excelsior à Atakpani.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné des problèmes de production agricole dans les pays qui dépendent des importations d'engrais, comme le Ghana. Pour faire face à la pénurie d'engrais, les autorités ghanéennes exhortent les agriculteurs à utiliser les excréments de poulet et le compost. Reportage de Senanou Tord depuis Aboukrom au Ghana, le récit est de Nani Talani.
La productrice de cacao, Grace Aye, affirme que ces plantes ont commencé à porter des fruits et ont besoin d'engrais. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné une pénurie d'engrais et, par rapport à l'année dernière, le prix est 5 fois plus élevé.
Les pluies ont commencé et c'est le bon moment pour mettre des engrais. Mais les agriculteurs n'ont accès à aucun engrais du gouvernement, ni même du marché. Ils ont entendu dire que dans le passé, certains agriculteurs utilisaient les excréments de poulet comme engrais et qu'ils obtenaient de bons rendements. Ils ont donc décidé d'essayer.
La Russie est l'un des principaux exportateurs d'engrais et principal fournisseur du Ghana, deuxième exportateur mondial de cacao. Les lourdes sanctions contre la Russie rendent les importations pratiquement impossibles. Fifi Boafo, du Ghana Cocoa Board, ou Cocobod, soutient que tout le monde s'attend à ce que les prix des engrais continue d'augmenter.
So what CocoBoard is doing presently,
ce que CocoBoard est en train de faire actuellement, c'est d'introduire les agriculteurs au fumier de volaille comme substitut à l'engrais que nous achetons sur le marché. Et nous sommes convaincus que cela pourra finir le problème ou le défi que la disponibilité et la question des prix auront sur notre industrie.
Le conseil indique que les excréments de poulet sont riches et sont meilleurs pour la nature.
It is scientifically proven that
il est scientifiquement prouvé que le fumier de volaille est un bon substitut aux engrais et c'est organique. Donc, si vous avez le remplaçant, pourquoi attendre d'être le plus durement touché?
Le vice-ministre ghanéen de l'agriculture, Yao Frimpong Ado, a déclaré que des sites de compostage sont en cours de construction dans tout le pays pour apaiser les inquiétudes sur la pénurie d'engrais.
Partout, il y a ce site de compostage. Une fois que celui-ci est mis en service, il s'agit essentiellement d'engrais organiques. Donc, nous allons voir comment nous pouvons combiner juste une petite quantité d'engrais non organiques avec l'organique. Puis, nous sommes prêts à partir. C'est la voie à suivre pour nous en tant que pays.
Les Nations Unies affirment que la guerre de la Russie contre l'Ukraine, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de blé, fait grimper les prix et menace la sécurité alimentaire. Le ministère ghanéen de l'Agriculture se dit convaincu qu'un passage aux engrais organiques peut aider à prévenir une crise alimentaire et pourrait être respectueux de l'environnement à long terme.
Avec vous, dans Washington Forum cette semaine, la guerre en Ukraine et l'urgence d'une sécurité alimentaire en Afrique. Ce conflit qui oppose deux des plus grands exportateurs de blé dans le monde a mis en exergue la dépendance alimentaire du continent à l'extérieur, poussant décideurs et experts à appeler à une production locale plus importante de produits de base comme les céréales. Le FMI alerte même sur les risques de troubles sociaux en Afrique en raison de la flambée des prix alimentaires dus aux conflits en Ukraine. Comment l'Afrique peut-elle réduire sa dépendance alimentaire? Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.
Au Cameroun, les populations vivant le long de la frontière avec le Tchad et le Nigeria ont organisé plusieurs manifestations devant les bureaux des autorités locales pour demander que l'armée intervienne dans les zones où les attaques de Boko Haram ont augmenté. Selon eux, rien qu'au cours des trois dernières semaines, au moins 35 villageois ont été tués par le groupe terroriste. Reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé au Cameroun, le récit est de Mohamed Oumfa.
Le bureau du gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun a vu lundi des centaines de personnes protester contre les récentes attaques contre leur village le long de la frontière avec le Tchad et le Nigeria. Les chefs de village accusent les combattants islamistes du groupe terroriste Boko Haram d'avoir tué au moins 37 personnes au cours des trois dernières semaines et d'avoir volé du bétail et de la nourriture. Ils ont collecté des fonds pour que les villageois se rendent dans la capitale régionale Maroua pour demander de l'aide aux autorités. Parmi les manifestants, le pasteur Joseph Bayoua de l'église évangélique du Cameroun à Tourou, village frontalier du Nigeria.
Nous sommes tués chaque jour, pillés par Boko Haram. Nous sommes vraiment dépassés. La population que voici devant vous, monsieur le gouverneur, voudrait que le gouvernement leur trouve une solution pour nous donner la sécurité. Sinon, nous nous voyons abandonnés au profit de Boko Haram.
Les manifestants affirment que Boko Haram s'est infiltré dans les localités de Kolofata, Amchidé, Tourou, Gambaru et Koumché. Selon les médias locaux, dont la chaîne de télévision publique Cameroon Radio Television, ce sont des centaines de villageois qui ont manifesté la semaine dernière devant au moins 8 bureaux des autorités locales. Ils demandent au gouvernement camerounais de déployer des troupes pour les protéger. Le gouvernement y prête une oreille attentive, selon le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiyawa Bakari, qui s'est entretenu avec la CRTV.
Je voudrais vous rassurer ici et maintenant, dès demain, vous sentirez l'impact sur le terrain.
tout va monter en puissance pour un règlement rapide et définitif sur très haute instruction du chef de l'État. Donc vous n'êtes pas abandonné comme vous le prétendez. Pour plus d'efficacité, mettez les moyens à leur disposition pour appuyer ces forces de défense et de sécurité. Vos préoccupations sont les préoccupations du chef de l'État. L'armée est là.
Le gouverneur Bakary n'a pas donné le montant de l'assistance accordée aux milices villageoises qui collaborent avec l'armée dans la lutte contre Boko Haram. Selon lui, de nombreux jeunes ont quitté le groupe terroriste après la mort de son chef, Aboubakar Shekau, l'année dernière. Il leur a demandé d'être patients, ajoutant que le gouvernement avait l'intention de fournir des subventions aux repentis afin qu'ils puissent faire de l'agriculture. Samedi, l'armée camerounaise a rejeté les informations de certains médias locaux affirmant que des troupes destinées à l'extrême nord avaient plutôt été envoyées pour combattre des sécessionnistes dans les régions de l'ouest.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée.